Bonjour à tous les Auroviliens. Alors aujourd'hui, je vais vous lire la Gita. Et c'est sur la Gita de Sri Aurobindo. Et le titre s'appelle le premier chapitre. Il y a deux chapitres en ce qui concerne le chapitre 21 qui s'appelle « Vers le suprême secret ». Comment le faire alors? D'abord, dit le yoga, dit la Gita, par une union de notre intelligence purifiée avec la pure substance spirituelle en nous, grâce au yoga de la Bouddhi. Bouddhya Vishnudaya Yukta. Le retournement spirituel de la Bouddhi qui ne regarde plus vers l'extérieur et le bas, mais vers l'intérieur et le haut, caractérise le yoga de la connaissance. La compréhension purifiée doit régir tout l'être. Atmanam Niyamya. Elle doit nous écarter de l'attachement désir orienté vers l'extérieur et qui appartiennent à la nature inférieure par une volonté ferme et résolue, dhritya, qui en sa concentration se retourne entièrement vers l'impersonnalité de l'esprit pur. Les sens doivent abandonner leur objet, le mental rejeter le goût et le dégoût que ces objets excitent en lui, car le moi impersonnel n'a ni désir ni répulsion. Ce sont des réactions vitales de notre personnalité au contact des choses et la réponse correspondante du mental et des sens à ses contacts et leur support et leur base. Il faut acquérir une entière maîtrise du mental, de la parole et du corps, voir des réactions vitales et physiques, faim, froid, chaleur, plaisir et douleur physique. Tout notre être doit devenir indifférent, ne pas être affecté par ces choses, être égal devant tous les contacts extérieurs comme devant les réactions et les réponses qui sont intérieurement données. C'est la méthode la plus directe et la plus puissante, la voie droite et précise du yoga de Sri Aurobindo. Il faut que cesse tout à fait le désir et l'attachement. Viragunya. Il est exigé du chercheur qu'il recourt avec une force à la solitude impersonnelle et s'unisse constamment au moi le plus profond par la méditation. Et pourtant, l'objet de cette austère discipline n'est point de se centrer sur soi dans quelque suprême retraite égoïste, quelque tranquillité du sage, du penseur, qui répugne à se donner la peine de participer à l'action universelle. L'objet est de se débarrasser de tout ego. On doit d'abord et avant absolument écarter le genre rajasique d'égoïsme, la force, la violence de l'ego, son arrogance, son désir, sa colère, le sens et l'instinct de possession, l'élan des passions, les puissants appétits de la vie, mais il faut ensuite rejeter tout. tous les genres d'égoïsme, même le plus sadvique. Car le but est pour finir de libérer l'âme, le mental et la vie du sens aliénant du je et du mien, Nirma Mama. L'extinction de l'ego et de ses existences de toutes sortes, telle est la méthode que nous est proposée, car le moi impersonnel est pur, qui, inébranlé, soutient l'univers, n'a nul sens de l'ego et n'exige rien de personne, ni de l'univers. Il est calme et lumineusement impassible et considère en silence toutes les choses et toutes les personnes d'un œil égal et impartial. L'œil de la connaissance de soi et du monde, c'est donc évidemment vivant intérieurement dans une impersonnalité analogue ou identique libérée de l'assaut des choses, l'âme au-dedans pour le mieux devenir capable d'unité avec le Brahman immuable qui regarde et connaît les formes et les mutations de l'univers mais n'en est pas affecté. Cette première poursuite de l'impersonnalité telle que l'enjoint, la Gita, entraîne évidemment un certain quiétisme intérieur fort complet, et en ce qui ces éléments et ces normes de pratique ont de plus intérieur est tout à fait semblable à la méthode du sannyasa. Il est toutefois un point où sa tendance à se retirer des prétentions de la nature dynamique et du monde extérieur se trouve mise en échec. À une limite est imposée pour empêcher le quiétisme intérieur de s'approfondir jusqu'à se muer en refus de l'action et en retrait physique. Le renoncement à leur objet par les sens, vichaya, tishaya, doit être la nature du tyaga. Ce doit être un abandon de tout attachement sensuel, le rasa, et non pas un refus de la nécessaire activité intrinsèque des sens. Mais nous devons nous mouvoir parmi les choses qui nous entourent et agir sur les objets du domaine sensoriel. Grâce à un fonctionnement pur et vrai et intense, simple et absolu des sens, Kevalair Indrayanchi Tacharan, pour ce que ces objets ont d'utile à l'esprit dans l'action divine et non pas du tout pour assouvir le désir. Il doit y avoir vairaya guya, non au sens habituel de dégoût de la vie ou d'inappétence pour l'action du monde, mais au sens du renoncement au raga. Ainsi qu'à son opposé, dvisha. Nous devons nous soustraire à toute attirance mentale et vitale, comme à toute répulsion mentale et vitale, quelle qu'elle soit. Et cela est demandé non en vue de l'extinction, mais enfin que puisse exister une parfaite égalité de l'esprit, soit même de donner un accord sans entrave ni limite à la vision divine intégrale et générale des choses et à l'action divine intégrale dans la nature. Recourir constamment à la méditation Dhyana Yoga Paro Nityam, est le ferme moyen par lequel l'âme de l'homme peut réaliser son moi de pouvoir et son moi de silence. Et pourtant, on ne doit en action en aucun cas abandonner la vie active au produit d'une vie de pure méditation. Il faut toujours accomplir l'action en sacrifice à l'Esprit suprême. Il faut toujours accomplir l'action en sacrifice à l'Esprit suprême. Ce mouvement de recul prépare sur le sentier du sannyasa à une absorption et à une disparition de l'individu en l'éternel, et le renoncement à l'action et à la vie dans le monde est une étape nécessaire du processus. Mais sur le chemin du tyaga, de la Gita, c'est plutôt un moyen de nous préparer à changer toute notre vie, toute notre existence, toute notre action en une action intégrale d'unité avec l'être, la conscience et le vouloir serein et immesurable du divin moyen qui prélude, en le rendant possible, à un vaste, un total passage ascendant de l'âme depuis l'ego inférieur vers l'inexprimable perfection de la suprême nature spirituelle para-pakriti. Cette orientation décisive de la pensée de la Gita est indiquée dans deux aspects suivants, dont le premier se déroule en un ordre significatif. Lorsque l'on est devenu le Brahman, que l'on ne s'afflige ni ne désire plus, lorsqu'on est égal pour tous les êtres, alors on a pour moi l'amour et la dévotion suprême. Mais sur les trois sentiers de la connaissance, la bhakti de la dévotion au divin personnel ne peut être qu'un mouvement inférieur et préliminaire. La fin, l'apogée, c'est la disparition de la personnalité en une unité centrée avec le Brahman impersonnel, où il ne peut y avoir de place pour la bhakti, car il n'y a personne à adorer, ni personne pour adorer. Tout le reste se perd en la silencieuse et immobile identité du jiva avec l'atman. Ici, il nous est donné quelque chose d'encore plus haut que l'impersonnel. Ici, il y a le moi suprême, qui est le suprême Ishwara. Ici, il y a l'âme suprême et sa suprême nature. Ici, il y a le Purushottama, qui est par-delà le personnel et l'impersonnel, et les réconcilie sur les hauteurs éternelles. Cependant, la personnalité de l'ego disparaît dans le silence de l'impersonnel, mais en même temps, en dépit de ce silence, à l'arrière-plan, l'action d'un moi suprême plus grand que l'impersonnel demeure. L'aveugle et boiteuse action inférieure de l'ego et des trois gunas n'existe plus, remplacée qu'elle est par le vaste mouvement autodéterminateur d'une infinie force spirituelle, d'une libre et immesurable Shakti. Toute la nature devient le pouvoir de l'unique divin et toute action son action, l'individu en étant le canal et l'instrument. À la place de l'ego vient en avant, conscient et manifeste, le vrai individu spirituel dans la liberté de sa véritable nature, dans la puissance de son statut céleste, dans la majesté, dans la splendeur de son éternelle parenté avec le divin, impérissable portion du divin suprême, indestructible pouvoir de la suprême Pakriti, Mamaya Vashinsha, Sanatana Para Pakriti Jiva Buddha. L'âme de l'homme se sent alors une en une suprême impersonnalité spirituelle avec le Purushottama. Et en sa personnalité universalisée, elle sent qu'elle est un pouvoir manifeste du divin. Sa connaissance à elle est une lumière de sa connaissance à lui, sa volonté une force de sa volonté à lui, son unité avec tout dans l'univers, un jeu de son éternelle unité. C'est en cette double réalisation, c'est en cette union des deux aspects d'une ineffable vérité de l'existence et par l'un ou l'autre ou bien par les deux. L'homme peut absorber à son propre être infini et pénétré que doit vivre l'homme libéré, qu'il doit agir, sentir et déterminer, ou plutôt voir déterminer pour lui par un suprême pouvoir de son moi suprême. Ses relations avec tout, ainsi que les opérations intérieures et extérieures de son esprit. Et dans cette réalisation unificatrice, l'adoration, l'amour et la dévotion non seulement constituent d'être possible, mais forment une grande part inévitable, un couronnement de la plus haute expérience. L'un qui éternellement devient le multiple qui en son apparente division demeure éternellement un, le suprême qui révèle en nous ce secret et ce mystère de l'existence, non dispersé par sa multiplicité, non limité par son unité, telle est la connaissance intégrale, telle est l'expérience conciliatrice qui rend capable d'une action libérée, muktasya karma. Alors voilà, aujourd'hui je me permets de terminer cette lecture absolument divine que Sri Aurobindo a écrit pour vers le suprême secret, et c'est sur la Gita de Sri Aurobindo. Merci à Sri Aurobindo et Douce Mère pour cette absolue et merveilleuse indication qui nous révèle la connaissance. Merci, merci infiniment. Merci Priya, Ganga Lakshmi, House of Mother Agenda, Savitri, Bhavan.
Oui, vous écoutez Auroville Radio from Auroville, la ville internationale in India.